Les rencontres d'Edmond Morel.
Jean-Christophe Yu, est-ce que je dois dire Yu ou You?
On dit Jean-Christophe Yu, mon frère dit parfois Jean-Christophe Yu, bon c'est une liberté qu'il prend, mais moi je maintiens que c'est Yu qu'on dit,
Jean-Christophe Yu, voilà. C'est un nom d'origine chinoise. Alors vous êtes le réalisateur, et c'est ce qui nous vaut de nous rencontrer, vous êtes le réalisateur d'un documentaire consacré à Sommeville. Le sous-titre que vous avez choisi est « Un artiste parmi les hommes ». Pourquoi ce sous-titre ?
Parce qu'il s'agit d'un documentaire sur un artiste de grand niveau, un artiste international en l'occurrence, mais qui a toujours voulu, et par ses actes, et par ses écrits, et par sa peinture, et par son art, bien évidemment, à se placer toujours dans la vie des hommes. Jamais il n'a voulu se placer dans la tour d'ivoire dans laquelle se réfugient malheureusement beaucoup trop de créateurs, beaucoup trop d'intellectuels, beaucoup trop d'artistes. Roger Sommeville, toute sa vie, a voulu se mettre vraiment dans la mêlée, prendre part au combat, et par son art, ses écrits et ses engagements, participer à l'émancipation, comme on dit, du plus grand nombre, de l'humanité en l'occurrence.
Alors par son art, par ses écrits et par son engagement, on va peut-être passer en revue les trois éléments que vous indiquez. Tout d'abord, son art, votre film débute avec cette tapisserie immense qui s'est retrouvée par le hasard des prêts entre États, qui s'est retrouvée à l'OTAN, alors que c'est une des œuvres les plus pacifistes qui soit. Alors racontez un peu cette aventure que vous racontez dans votre film et qui l'ouvre.
Voilà, c'est le Triomphe de la paix qui illustre en fait un poème de Bertolt Brecht qui est une ode à la paix. Roger Sommeville a eu une commande de l'État belge, d'une grande tapisserie, parce que Roger Sommeville faisait partie d'un groupe qui s'appelait la tapisserie de Tournai, et Force Murale en l'occurrence, avec Edmond Dubrunfaux notamment. Et ils avaient recréé, redynamisé l'art de la tapisserie en Belgique. Donc dans ces années-là, les années 60, il y a une commande officielle de l'État belge qui... Roger Sommeville s'est emparé de cette commande pour réaliser un projet qui lui tenait à cœur, en l'occurrence illustrer, si on peut parler simplement du mot illustrer, un grand poème de Bertolt Brecht qui fait un appel à la paix et à l'entente, à la fraternité entre les peuples. Ce fait que le hasard a voulu qu'à peu après cette tapisserie déménage, voyage, en dépit de la volonté de Roger Sommeville lui-même, qui avait fait une très belle, très grande œuvre, et se retrouve effectivement au siège de l'OTAN à Paris, où elle fut inaugurée en quelque sorte par une assemblée d'officiels de l'OTAN en tenue, des militaires, qui ont dû effectivement être très étonnés de se retrouver comme ça devant une immense tapisserie, illustrant un poème d'un poète notoirement communiste, notoirement engagé, mis en image, si je puis dire, par un artiste qui n'était pas moins engagé, pas moins communiste. Voilà, l'histoire commence par ça, effectivement. C'est une des situations les rocambolesques que Sommeville a pu rencontrer tout au long de sa vie, qui a mis en confrontation ses engagements divers à des situations qu'il n'a par ailleurs pas lui-même créées, et qui, en l'occurrence, est vraiment extraordinaire.
Oui, il indique d'ailleurs que lui, l'artiste, a été le seul à ne pas avoir été invité à l'inauguration de la toile. Voilà. Rappelons qu'on est en 1965, ce qui veut dire qu'on est en pleine guerre froide. Donc, le monde est tout à fait différent, partagé entre un côté communiste et un côté capitaliste, pour être un peu manichéen. Lui est du côté communiste.
Ah, oui, il a toujours été du côté communiste, dès après la fin de la guerre. C'était l'époque aussi, après la guerre, où les forces de progrès, les forces syndicales, les forces communistes parmi elles étaient en ascension. Il était permis à l'époque de croire à l'avènement d'un monde meilleur, et les choses étaient là. Sommeville a entamé son engagement communiste à partir de cette époque-là, et l'assumait jusqu'au bout, il l'assume toujours à cette heure-ci.
La préoccupation qu'il avait en tant qu'artiste, c'était d'imaginer, de construire la relation qui pouvait exister entre le peuple et l'art, parce qu'on comprend l'engagement syndical communiste pour améliorer les conditions économiques, les conditions sociales, les conditions de travail, mais l'art dans tout cela, c'était une des préoccupations de Roger Sommeville.
L'art, la création de manière générale, mais jamais sans faire dans le populisme en l'occurrence, solliciter le peuple, dans sa plus belle acception du terme, ça a toujours été une partie de son engagement fondamental, mais ça ne s'est jamais fait dans son esprit au détriment ni dans son art, au détriment de la qualité artistique et esthétique en tant que telle. Somerville se nourrit des revendications, des aspirations populaires démocratiques, la plus belle qui soit à mon sens, mais se nourrit, s'agissant de l'art aussi, de la plus belle tradition. L'un des peintres que Roger Somerville aime à citer, c'est par exemple Rubens, Paul Rubens, qui fait partie du patrimoine mondial de la création artistique. Donc Roger Somerville a beau s'être battu pour que le peuple, en l'occurrence, rencontre la création artistique, ça ne s'est jamais fait, ni dans ses actes, ni dans ses peintures, ni dans ses écrits, ni dans sa manière de penser, au détriment de la qualité artistique en tant que telle.
Pour prolonger cet argument-là, dans une des interviews qui jalonne votre documentaire, il dit qu'il faut aussi mettre l'art là où le peuple passe d'une certaine manière, là où le citoyen lambda peut y avoir accès.
Mettre l'art là où passe vivent les hommes, c'était l'une des phrases fétiches de Roger Somerville et d'Edmond Dubrunfaut, qui était lui aussi un très grand créateur de tapisserie. C'est fait, effectivement, il faut aussi se servir des endroits où la population, dans sa vie ordinaire, sa vie quotidienne, vit, passe. Et l'une des plus belles illustrations, à mon sens, de ce précepte-là est effectivement le triomphe de la paix, qui maintenant se trouve accroché dans un endroit pas forcément facile d'accès, qui est le siège de la communauté européenne. Roger Somerville ne l'a pas voulu non plus, ça ne lui appartient plus en tant que tel, hein, la tapisserie. Mais une autre très belle illustration qui fait partie du film par ailleurs, c'est la station de métro Ancare, qui était là, effectivement, nous voulons attirer l'attention, pas seulement agrémenter les murs, mais attirer l'attention des gens qui sont là, attendent le métro, par une œuvre d'art, par ses beautés, par sa spécificité aussi. C'est pas une œuvre d'art qui est tout en douceur, bien entendu, mais par quelque chose qui donne du plaisir, qui donne du sens, qui donne de la réflexion. Ancare, une très très belle illustration de cet engagement qui remonte donc dès après la Deuxième Guerre mondiale.
Alors l'autre, là, on a évoqué donc cette deuxième œuvre monumentale qui est la station de métro Ancare à Bruxelles. Il y en a une troisième qui est à Louvain-la-Neuve et qui, là, est une sorte d'allégorie métaphorique de l'enseignement, de l'importance de ce qui est la transmission de la culture, de la connaissance.
Voilà, c'est encore une autre fois la même idée qui revient. C'est que le titre de l'œuvre, c'est « Qu'est-ce qu'un intellectuel ?» Roger Somerville pose la question, la transpose en une œuvre d'art de grande dimension une fois encore, et la pose en pleine Université catholique de Louvain, en pleine UCL, face aux étudiants qui passent devant, qui la regardent ou qui la regardent pas, mais qui la regardant peuvent éventuellement se poser des questions sur leur rôle en tant qu'étudiant, mais aussi en tant que futur intellectuel. Là, c'est encore une situation un peu paradoxale. Roger Somerville a fait une œuvre, lui qui est un engagé, laïque, viscéral, communiste, engagé, éprouvé. Il a créé une œuvre, il a placé une œuvre en pleine Université catholique de Louvain. Ça veut bien dire que Roger Somerville, quelque part, est apte aussi à s'adapter aux différentes conditions qui lui sont proposées, qui lui sont même imposées. Les autorités publiques ne faisant peut-être pas, qu'on apprête pour le dire, le travail qu'elle devrait faire à ce sujet-là.
Mais on peut aussi considérer que, hormis l'OTAN, parce qu'ils ignoraient tout à fait avant de découvrir l'œuvre, que c'était l'œuvre d'un communiste inspiré d'un poème de Brecht, hormis cela, on peut aussi considérer que Somerville est un artiste qui est au-delà de ses convictions politiques.
Ce que fait Somerville, ce n'est pas seulement illustré par des drapeaux rouges qu'il peut ressentir au fond de lui-même, c'est un petit peu transposer tout ça et aller un petit peu au-delà de cela. L'engagement communiste ne veut pas toujours dire se lever tous les matins avec le couteau entre les dents et dire on va illustrer d'une manière ou d'une autre le manifeste du Parti communiste ou la lutte des classes. Il ne s'agit pas de cela. On a toujours ça dans le fond de son cœur, qu'on est artiste, comme un artiste comme Roger Somerville, mais on se nourrit de cela, on se nourrit de l'histoire et on se nourrit aussi de la réalité existante, la réalité vivante et des gens qui sont effectivement face à soi. Et ça a donné des œuvres à la fois plus directement engagées, comme effectivement le triomphe de la paix qui se trouve devant les colonels de l'OTAN, mais ça s'est illustré aussi par des œuvres extraordinaires qui sont des œuvres érotiques, des œuvres d'amour, des œuvres de femmes nues sortant de la mer, comme ça. Et ce n'est pas en contradiction avec les convictions politiques de Roger Somerville. Somerville le dit lui-même aussi, peindre l'amour, pour lui, c'est une autre manière d'illustrer, de peindre des drapeaux rouges. L'amour, c'est la révolution, c'est ce que chantait aussi Jean Ferrat, c'est ce qu'a écrit aussi Aragon, tous ces gens-là dont se revendiquent peu ou prou Roger Sommeville.
Je me faisais l'avocat du diable parce que lorsqu'on pense à ce qu'a été l'art pictural communiste en Union soviétique ou en Chine, on se dit qu'on pouvait redouter d'un communiste aussi engagé que Sommeville qu'il ne fasse ce genre d'œuvre, ce qui n'est pas du tout le cas.
Voilà, vraiment, ce n'est pas le cas du tout. Roger Sommeville s'est battu beaucoup contre les écrits, en l'occurrence de Gerasimov, et j'oublie le nom maintenant d'un autre théoricien soviétique qui exprimait l'idée que les artistes soviétiques, en l'occurrence, devaient être aux ordres du parti, point final. Ceci étant dit, à partir de ce précepte-là, qui est un petit peu, pour le moins, autoritaire, contre lequel s'est élevé Roger Sommeville, pour ce qui est de l'Union soviétique, quand on pense au cinéma, ça donnait des œuvres d'une qualité extraordinaire, qui resteront dans l'histoire de l'humanité ad vitam aeternam. Quand on pense à Eisenstein, par exemple, et toute l'œuvre cinématographique qu'il a laissée, c'est extraordinaire. Et il l'a fait lui aussi, au nom du même idéal que Roger Sommeville, au nom du même idéal, en tout cas affiché, que les théoriciens soviétiques qui avaient à l'époque pignon sur rue.
Alors on va progresser encore dans l'œuvre, quitter l'œuvre monumentale, cette fois-ci peut-être pour revenir sur un ou deux aspects, parce qu'on ne pourra pas évoquer tout, mais un aspect qui est fort émouvant dans votre film, ce sont les images d'archives que vous avez retrouvées lorsque Roger Sommeville s'intéresse au Borinage, à la situation sociale de la région du Borinage, une région minière qui est en pleine crise, et on pourrait dire qu'une sorte de paroxysme de cette crise est la catastrophe du bois du Cazier. Alors racontez-nous comment vous avez constitué cette séquence-là.
Alors en fait, Roger Sommeville, donc à l'époque, on parlait beaucoup du Borinage, c'était l'époque de la CK, etc., on fermait les Borinages, on commence à fermer beaucoup, est allé sur place, est allé rencontrer des ouvriers, il est allé dessiner. Il y a une photo, on le voit assis parmi les ouvriers en train de dessiner, faire des croquis, faire des projets, semble-t-il. Et il a ramené de cela beaucoup, beaucoup de dessins et il en a fait quelques gravures par ailleurs, où il illustre effectivement la chute du Borinage. Ce faisant, une fois encore, je reviens à la question précédente, il n'a pas fait une œuvre simplement où on voit des drapeaux rouges, des ouvriers en train de se fâcher, c'est pas seulement ça. Là, il a illustré par des dessins d'une beauté extraordinaire la chute du Borinage de manière assez symbolique. C'est presque, pourrait-on dire, le mot prête beaucoup à discussion, un petit peu du surréalisme aussi, de la façon dont il a illustré la chute du Borinage, la fermeture des usines. Ça veut bien dire, une fois encore, que l'engagement de Roger Sommeville en politique et en art ne veut pas dire que vient immédiatement devant les yeux une œuvre toute faite. Chaque situation impose une forme d'art, une forme d'expression différente. C'était le cas à ce moment-là, c'était le cas beaucoup plus tard. Pour ce qu'il en est de la catastrophe du bois du Cazier, Roger m'a raconté plusieurs fois qu'à l'époque, il avait pris beaucoup de croquis, beaucoup de dessins. Donc, il a fait les œuvres dont je viens de parler, notamment l'Apocalypse Borène. C'est extraordinaire, cette série d'œuvres-là. Mais à l'époque, il n'a pas été capable d'illustrer directement, de rendre directement l'émotion qu'il avait ressentie en allant sur place, en écoutant les actualités et en voyant les journaux. Il a fallu très longtemps pour effectivement peindre un tableau qui s'appelle La catastrophe de Marcinelle, où on voit simplement une femme en train de pleurer. Il n'a pas voulu faire des visages directement. Il y a toujours des visages chez Sommeville, bien entendu, mais il n'a pas voulu rendre la chose de manière directe. Il a voulu faire dans l'allusion. Encore une fois, ceux qui décrivent Sommeville en disant que son art est simplement un coup de poing dans la gueule et des images toutes faites et des incunables, si j'ose dire, sont vraiment à côté de la plaque.
D'autant plus qu'on pourrait considérer que tous les croquis qu'il a fait avant la catastrophe du Borinage ou autour du travail des mineurs et des portraits de mineurs, tous ces dessins que vous montrez sont une sorte de travail préparatoire à l'œuvre finale qui est la métaphore de ce qu'a été la catastrophe du bois du Cazier.
Voilà, c'est exactement ça. Oui, on peut dire qu'il a véhiculé ça toute sa vie dans le fond de lui-même et qu'à un moment donné, il s'est senti apte, avec le recul du temps certainement, de transposer quelque chose qui lui plaisait, qui lui semblait correct.
Alors, on va peut-être quitter l'énumération des œuvres pour parler un peu d'esthétique. Il dit à un moment donné dans l'interview, Roger Sommeville, que pour lui, l'art abstrait est quelque chose qui ne correspond pas non seulement à ce qu'il veut faire, mais qui ne correspond pas à sa conception de l'art. Il dit même que l'avenir et l'histoire jugera très sévèrement l'art abstrait et l'art contemporain de manière générale. Comment en est-il venu à cette perception-là des choses ?
D'abord, il précise que l'art abstrait, pour lui, est différent de l'art non figuratif. En fait, l'art abstrait pour lui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Sont arrivés à l'abstraction, explique-t-il dans ce livre, pour le réalisme notamment, c'est des gens comme Rubens, selon lui, sont arrivés à un niveau d'abstraction extraordinaire. Pourquoi ? Tout simplement parce que regardant la réalité, il a transposé celle-ci et en a fait une œuvre d'art extraordinaire. Il a transposé, ça veut dire qu'il en a fait une abstraction intellectuelle et émotive quelque part. Donc son vif fait la différence. Il n'est pas contre l'art abstrait. Il n'est même pas contre, il n'encourage pas, c'est le moins qu'on puisse dire, l'art non figuratif auquel il ne croit pas. Mais ce disant, il laisse libre cours à ceux qui veulent vraiment le pratiquer, à cet art-là, s'ils l'ont envie. Personnellement, je trouve qu'il y a des choses quand même intéressantes à retirer de cette forme d'expression. Mon propre grand-père était un artiste aussi, il a pratiqué, il s'est battu aussi, en tant qu'artiste communiste lui aussi, la pratique de l'art non figuratif qui représentait pour lui, dans les années 60, donc un aboutissement, ou en tout cas une prolongation de l'art moderne. C'est un débat un petit peu connexe, mais pas complètement, dans la mesure où Sommeville et mon propre grand-père Paul Renaud se sont rencontrés et ont parlé, se sont même disputés fraternellement, si je peux dire, par voie de presse, par voie du drapeau rouge en l'occurrence à l'époque. Donc Roger Sommeville n'est pas contre l'art abstrait, il l'est pour, au contraire, il est pour.
Ce n'est donc pas votre grand-père chinois, c'est votre grand-père belge.
Voilà, il s'agit de mon grand-père belge qui s'appelait Paul Renaud, qui était échevin de la culture, échevin des beaux-arts à Liège après la guerre, qui avait les mêmes convictions que Roger Sommeville, mais qui, s'agissant de l'art, prenait une voie différente. Et il a eu des mailles à partir, enfin de manière fraternelle, mais parfois très, très sévère, via le drapeau rouge, avec Roger Sommeville, ou l'un de ses compagnons, qui était un artiste extraordinaire aussi, que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Jean Goldman, qui a disparu il y a quelques années.
Alors, je précisais le grand-père, parce que comme c'était hors antenne qu'on a dit que oui. Vous êtes d'origine chinoise, oui. En évoquant votre nom, vous avez un grand-père chinois, et je m'étais dit, peut-être, est-ce lui qui est un artiste abstrait, défendant l'abstraction, ce qui aurait été une nouvelle dimension pour la rencontre.
Non, il s'agit bien de Paul Renaud, artiste belge, décédé aujourd'hui, enfin depuis très longtemps même.
Alors, j'avais oublié la question, oui. Mais vous n'avez pas oublié apparemment. Donc,
oui. Donc voilà, il y a d'une part l'abstraction, Roger Sommeville défend l'abstraction, il essaie, dit-il lui-même, d'être un peintre abstrait de bonne qualité, réaliste en l'occurrence, donc réaliste avec toutes les dimensions immenses qu'on peut donner au terme, pas réaliste photographique, il ne s'agit pas de la même chose. La non-figuration, c'est autre chose, il n'y croit pas, lui défend l'importance dans toute œuvre d'art de la figure humaine, quelle qu'elle soit, transposée, abstraite en l'occurrence, mais présente en l'occurrence. Ce contre quoi il s'est surtout élevé, là, beaucoup plus viscéralement, c'est ce qu'on appelle les arts dits d'avant-garde. Là, on peut dire qu'il s'est battu très fort, d'autant plus fort qu'on peut reconnaître que pendant très longtemps, maintenant encore, quand on voit beaucoup de magazines d'art, les tenants de l'art d'avant-garde avaient une déposition sectaire tout à fait insupportable.
Il a d'ailleurs fait une toile extrêmement féroce contre les critiques d'art, les représentants sous la forme d'âne et les artistes déféquants sur leur toile. Enfin, c'est...
Ah oui. Un petit peu une ambiance à la Bruegel, si j'ose dire, ou la Jérôme Bosch, si on ose dire, puisque Sommeville se nourrit aussi de ça. Bosch, Bruegel, ça fait partie de son patrimoine. La diarrhée intellectuelle, effectivement, se moque des faiseurs dans l'art, des faiseurs, mais surtout de ceux qui, en tant que critique d'art pontifie et à coups de phrases et de textes tous plus brillants mais incompréhensibles ou prétentieux les uns que les autres prétendent commenter en l'occurrence ici dans l'œuvre une toile où il n'y a rien. Il n'y a rien à partir du rien. On fait des commentaires, on fait des dictionnaires. C'est historique, c'est une moquerie de Roger Sommeville. Le rire est sain, le rire, c'est le rire de Sommeville, c'est aussi le rire de Bruegel quelque part, hein. C'est le rire flamand aussi, hein. C'est le rire d'Eulenspiegel aussi, de Sommeville a nourri de tout ça. Donc il se moque de ces critiques qui, à partir de rien, font des dictionnaires, pontifient et quelque part continuent aussi à écarter l'art du plus grand nombre. L'art ne devient plus quelque chose d'accessible, j'ai pas dit facile, mais accessible, mais devient quelque chose de précieux, d'intellectuel, pour élite, pour ceux qui comprennent, ceux qui ont les codes, ceux qui ont soi-disant de la culture.
Alors, le deuxième aspect que vous avez évoqué dans la première réponse, c'était, donc après l'art, c'était les écrits. On ne sait pas que Sommeville était aussi un écrivain, non seulement un essayiste, quelqu'un qui écrivait sur son art, mais aussi un véritable écrivain, dont on a d'ailleurs souligné dans une exposition l'amitié qu'il avait, assez paradoxale aussi, avec Maurice Carême.
Oui, je vous avoue que je ne connais pas précisément cette partie-là, mais effectivement, Roger Somerville, ça a rédigé beaucoup, beaucoup d'articles, beaucoup de pour les journaux, il a même fait des tracts, il a fait des tracts qu'il a diffusés lors d'un vernissage notamment, et il a produit des livres. L'un de ses livres les plus connus s'appelle Pour le réalisme, qu'il a produit fin des années 60, qui était préfacé à l'époque par Beauclassens, qui était considéré comme le grand intellectuel du Parti communiste.
Alors, on va passer à la troisième étape, qui est l'engagement. On a parlé de l'engagement politique, mais j'aimerais que vous évoquiez un autre type d'engagement et que vous nous disiez en quoi il est peut-être tout aussi important pour Roger Somerville, c'est l'enseignement.
L'enseignement, oui. Et c'est encore l'idée, quelque part, de partager ce qu'on connaît, ce qu'on aime, ce qui nous émeut. Roger Somerville était pendant très longtemps directeur de l'école de l'Académie de Boisfort. Il me racontait qu'au début, en tout cas, quand il s'agissait de créer l'Académie, il l'avait fait dans un enthousiasme extraordinaire, avec une liberté extraordinaire. C'était une formidable jeunesse qu'il développait et qui venait aussi autour de lui. Et il s'agissait effectivement de transmettre, mais jamais forcément imposer ses propres convictions artistiques ni même intellectuelles. Je veux dire, j'ai eu des témoignages indirects qui sont là pour attester que Roger Somerville avait beau être l'artiste engagé qu'on connaissait politiquement et esthétiquement, s'agissant de l'esthétique, s'agissant de la création, de l'apprentissage, il n'était pas là pour imposer des formes ni pour imposer des sujets. Il était là pour aider à améliorer sa technique, et vraiment se dépasser soi-même, mais jamais pour imposer les choses. C'est encore l'idée de partage, hein. C'est Somerville, l'œuvre de Somerville est inséparable de sa vie en tant qu'homme, en tant que professeur, en tant que directeur. C'est un homme entier dans le plus beau sens du terme.
Alors Jean-Christophe Hue, j'aimerais bien que maintenant on parle un peu de vous et de la manière dont vous avez procédé, parce que vous êtes réalisateur, vous êtes aussi un artiste, vous êtes allé à la rencontre de Somerville, on se rend compte combien c'est un artiste et un homme auquel vous vous êtes attaché au fil de ces rencontres. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à lui et en quoi est-ce que réaliser un film sur lui avait du sens, avait de l'importance pour vous?
Mais j'ai fait des études en histoire de l'art à l'université de Liège. À la même époque aussi, j'étais fort engagé, militant. J'étais militant jeunesse communiste à l'époque, à l'université de Liège, étudiant communiste. Et je prolongeais par ailleurs des engagements de jeunesse qui remontent, comme tout le monde a pu le connaître, à Robin des Bois, Zorro ou je ne sais qui d'autre. Donc à l'époque, j'étais étudiant en histoire de l'art, puis j'étais militant. Et rien à faire, c'est conforter en moi l'idée que l'un n'allait pas sans l'autre. Pour moi, la beauté de l'art, la beauté même des églises baroques que je pouvais étudier par ailleurs dans mon cours d'histoire du Moyen-Âge, devait être connu pas seulement des spécialistes, en l'occurrence des historiens d'art ou des étudiants en histoire de l'art, mais par le plus grand nombre, même par l'ouvrier qui m'arrivait de rencontrer dans des réunions, ou par l'employé de telle ou telle maison. Donc pour moi, Roger Somerville est presque venu naturellement. Il faisait partie un petit peu de notre univers, puisque Roger Somerville était quand même une des grandes personnalités encadrant, si je puis dire, le Parti communiste dont j'étais membre. Et aller vers lui, pour moi, était quelque chose de tout à fait naturel. Bien que, et je l'ai dit là tout à l'heure, j'avais un grand-père que j'affectionne intellectuellement, même si je l'ai très peu connu, qui était engagé aussi comme Roger Somerville, mais qui lui défendait un art figuratif et écrit des textes et même un livre à ce sujet-là. Donc je suis allé chez Roger Somerville tout à fait naturellement. L'un s'était nourri de l'autre. L'art s'était nourri de mes convictions politiques et continue de l'être par ailleurs pour l'instant.
Mais en tant que cinéaste, en quoi est-ce que réaliser un film sur un peintre dans lequel on le voit au travail, on le voit devant ses toiles dont il dit une toile est une aventure mais parfois aussi un naufrage, donc on le voit dans son travail, en quoi est-ce que réaliser un film nous apprend quelque chose sur le peintre que vous filmez selon vous?
En tout cas, je peux dire que l'idée est surtout venue en voyant les œuvres, bien entendu, mais un livre peut suffire ou une projection peut suffire, si je puis dire. Mais quand j'ai rencontré Roger Somerville en vivant, si je puis dire, pour la première fois, là, je suis allé d'ailleurs, en préparant mon mémoire, je suis allé chez lui la première fois, j'avais préparé de manière très... Je raconte ça un petit peu dans le film.
Il y a un narrateur dans le film.
Voilà, oui, c'est ça, oui. Mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. J'avais préparé des petites notes de manière scolaire, bien rédigées, etc., etc. Je suis arrivé devant lui. Il était bien gentil, m'a accueilli, je n'étais pas le premier. Hein. Et j'ai commencé à lire mes questions, je crois que j'ai une vingtaine de questions, une question, deux questions, Et puis, il commence à parler, commence à répondre, et il n'arrêtait pas. Or, j'ai pris mon papier, je l'ai rangé dans ma poche, et je l'écoutais tout simplement, quoi. Je n'avais plus rien d'autre à faire. Mais je l'écoutais avec fascination, parce qu'il ne s'agissait pas seulement de l'énumération d'actes ou d'œuvres qu'il aurait pu faire, qui me ressortait de manière académique, mais il s'agissait surtout d'un souffle de vie, d'un enthousiasme par rapport à tout cela. Et par rapport à cela, on ne peut être que là, et soit applaudir, soit au moins regarder avec sourire et écouter avec grande attention en tout cas. Donc les choses sont venues par là. Mais par ailleurs, ceci dit, il m'a fallu longtemps pour pouvoir le réaliser effectivement. Il a fallu que d'abord la vie est passée quand même, des choses sont passées dans ma vie comme tout le monde. Et puis un moment est venu dans ma tête où je me suis dit, il est temps de faire quelque chose parce que Roger vieillit aussi. Et puis les hasards de la vie aussi m'ont mis en contact simplement avec une productrice qui était très ouverte, très intéressée, et qui s'appelle en l'occurrence Martine Barbet, qui a bien voulu m'entendre et porter avec moi ce projet jusqu'au bout, et à le prolonger maintenant d'ailleurs avec un DVD que nous allons bientôt sortir.
Alors on va en parler du voilà. DVD, mais peut-être encore un point sur le film. On s'aperçoit en regardant le film qu'il y a énormément d'archives sur Sommeville, des anciennes émissions de télévision, ces images au borinage où il est en train de faire des croquis. Est-ce que ce n'est pas aussi une manière de montrer que l'art se nourrit aussi et l'histoire de cet artiste se nourrit aussi des différentes époques de sa vie, dont il est important de garder des traces aussi?
Oui, Sommeville a illustré, a été vraiment partie prenante de toute l'histoire de la deuxième moitié du XXe siècle. Donc le retrouver à plusieurs moments au cours à partir des années 50 est inévitable. Ça montre bien aussi que Roger Sommeville n'a pas forcément toujours prêché dans un désert, et que malgré tout, il était beaucoup entendu, beaucoup suivi aussi par des artistes qui sont parfois devenus de grands créateurs eux-mêmes.
Jean-Christophe, nous allons arrêter cette interview ici, non sans rappeler le titre de votre documentaire consacré à Roger Sommeville, qui porte le titre de Sommeville, un artiste parmi les hommes, qui sort en DVD, un DVD qui est produit par imagecreation.com et par cette productrice Martine Barbet que vous venez d'évoquer. On pourrait dire un grand artiste parmi les hommes, et un artiste qui compte vraiment dans l'art contemporain. Je suis sûr que vous ne me contredirez pas. Merci Jean-Christophe Hue.
Merci, merci à vous.
Les rencontres d'Edmond Morel.